Chapitre 22. Le viatique. Il y avait un contraste frappant entre la furie et les imprécations du dehors et la scène qui se passait à l'intérieur de la prison. La paix, la sérénité, le bonheur et même la joie régnaient dans les cachots. Les voûtes et les murailles de pierre résonnaient du chant des psaumes que dirigeait la voix de Pancratius. L'abîme semblait répondre à l'abîme, car les prisonniers du cachot inférieur répondaient aux prisonniers placés au-dessus d'eux et chantaient alternativement un verset des psaumes dont les paroles avaient des rapports avec leur situation présente. La veille du jour du combat, ou pour mieux dire, la veille du jour où les condamnés devaient être mis en pièces par les bêtes féroces, on leur accordait une plus grande liberté. Leurs amis pouvaient pénétrer jusqu'à eux, et les chrétiens, profitant hardiment de cette permission, se rendaient en foule dans les prisons pour se recommander aux prières de ces bénis confesseurs du Christ. Le soir, on donnait aux condamnés ce qu'on appelait le repas libre, c'est-à-dire un souper abondant, luxueux, auquel le public pouvait assister. Les païens entouraient la table, curieux de surveiller la physionomie et la conduite des combattants du lendemain. Mais ils ne pouvaient remarquer chez les chrétiens ni les bravades, ni l'ostentation du courage, encore moins l'abattement et l'amertume des condamnés ordinaires. Ce repas était vraiment pour les convives une agape ou un festin d'amour. Ils soupaient avec une joie calme et sereine, et leur conversation devenait joyeuse et douce comme à l'ordinaire. Cependant, Pancratius réprima plusieurs fois la grossière curiosité de la foule et ses remarques brutales en disant « La journée de demain ne vous suffit pas parce que vous aimez à contempler d'avance les objets de votre haine future. Aujourd'hui, vous paraissez nos amis, demain vous serez nos ennemis. Mais regardez bien nos traits afin que vous puissiez nous reconnaître au jour du jugement. » Après cette observation, un grand nombre de païens se retirèrent et quelques-uns se convertirent. Tandis que les persécuteurs préparaient ainsi une fête pour le corps de leurs victimes, l'Église, leur mère, donnait un banquet délicieux aux âmes de ses enfants. Les diacres les avaient constamment visités et en particulier Réparatus, qui eût été heureux d'accomplir avec eux son sacrifice, mais un devoir impérieux lui défendait en ce moment de songer aux martyrs. Après s'être occupé autant qu'il le pouvait de pourvoir aux besoins temporels, il s'arrangea avec le Saint-Prêtre Dionysius, qui demeurait encore dans la maison d'Agnès, pour qu'il lui envoyât vers le soir assez de pain de vie pour nourrir les champions du Christ le matin même du combat. Bien que les diacres fussent chargés de porter les saintes espèces consacrées de l'église principale aux autres églises, où les titulaires distribuaient seuls le pain de vie, on confiait à des ministres inférieurs la mission d'apporter la nourriture divine aux martyrs dans les prisons et aux mourants dans leurs maisons. En ce moment où les passions hostiles de Rome païenne étaient vivement surexcitées à la pensée du massacre prochain d'un grand nombre de chrétiens, accomplir ce devoir, c'était braver un danger réel. Les révélations de Torquatus venaient d'apprendre que Fulvius avait soigneusement remarqué les ministres de l'Église et donné leur signalement à un grand nombre d'espions, ses agents actifs. Ils étaient donc obligés de ne sortir dans la journée que soigneusement déguisés. On avait préparé le pain sacré, et le prêtre, se tournant de l'autel vers l'assemblée, cherchait qui voudrait le porter à sa dangereuse destination. Avant qu'une autre personne eût pu s'avancer, le jeune acolyte Tarcisius s'agenouilla à ses pieds. Il étendait ses mains vers le prêtre comme pour se disposer à recevoir le dépôt divin, et sa physionomie si belle et rayonnante de l'innocence des anges semblait demander et même implorer la préférence sur tous les autres assistants. « Tu es trop jeune, mon enfant !» dit le bon prêtre, rempli d'admiration, en regardant la figure angélique qui paraissait ravie à ses pieds. « Ma jeunesse, Saint-Père, sera ma meilleure sauvegarde. Oh, je vous en supplie, ne me refusez pas ce grand honneur !» Des larmes jaillissaient des yeux de l'enfant et ses joues s'empourpraient d'une modeste émotion en prononçant ces paroles. Il joignait les mains et sa prière était remplie d'une si courageuse ferveur que la requête devint irrésistible. Le prêtre enveloppa soigneusement les divers mystères dans un linge de toile, les recouvrit d'un second voile et les remit entre les mains de l'enfant en lui disant « Souviens-toi, Tarcissus, qu'un trésor inestimable est confié à tes faibles soins. Évite sur ton chemin les joies bruyantes et les lieux de réunion, et rappelle-toi que les choses saintes ne doivent pas être données aux chiens, ni les perles jetées aux pourceaux. Garderas-tu fidèlement les dons de Dieu ?»« Je mourrai plutôt que de les livrer, » répondit le saint enfant en cachant soigneusement le saint dépôt sur son cœur dans le haut de sa tunique. Puis il s'éloigna après un salut respectueux. On lisait sur son visage une expression de gravité au-dessus de son âge si tendre pendant qu'il traversait avec vitesse les rues de Rome, évitant également les lieux publics ou les ruelles trop étroites. Au moment où il approchait d'une grande et belle maison, la maîtresse du palais, une patricienne sans enfant, le regardait venir. Sa beauté, sa douceur, la noblesse de son maintien, lorsqu'il marchait, les yeux baissés et les bras modestement croisés sur sa poitrine, frappa la noble dame. « Arrête-toi un moment, mon enfant, » lui dit-elle en se mettant devant son chemin. « Quel est ton nom? Quels sont tes parents ?»« Je suis Tarcissus, un enfant orphelin, » répondit-il en levant vers elle son doux regard souriant. « Et je n'ai d'autre demeure qu'une maison dont le nom ne vous serait pas agréable à entendre. » « Alors, entre chez moi pour y demeurer. Je désire te parler. Oh, si j'avais un fils tel que toi !»« Je ne puis m'arrêter à présent, noble dame. J'ai un devoir sacré et solennel à remplir, et je ne pourrai tarder à l'accomplir. »« Alors, promets-moi de revenir me voir demain. Voici ma maison. »« Je viendrai demain si je vis encore, » répondit l'enfant avec un regard embrasé, qui le fit prendre par la patricienne pour un messager d'une sphère plus élevée. Elle le regarda longtemps, et après quelques réflexions, elle se résolut à le suivre. Elle entendit bientôt un tumulte et des cris terribles. Elle s'arrêta un instant sur la route, en attendant que le bruit ait cessé, puis elle continua son chemin. En même temps, Tarcissus, ses pensées portées sur des vues plus hautes qu'un héritage de ce monde, hâtait le pas et arriva bientôt sur une place où des enfants qui sortaient de l'école prenaient leur récréation. « Nous avons besoin d'un camarade de plus pour commencer notre jeu. Où le prendrons-nous » dit le chef de la jeune bande. « Quelle chance !» cria un autre. « Voici Tarcissus qui vient. Je ne l'ai pas vu depuis un siècle. Il est très habile à tous les jeux. Viens, Tarcissus » ajouta-t-il en saisissant son bras pour l'arrêter. « Pourquoi marches-tu si vite? Tu vas jouer avec nous comme un bon camarade. »« Je ne puis maintenant, Pétilius, je ne puis pas. Je suis occupé d'une affaire d'une grande importance. »« Ce sera pour plus tard, » reprit l'autre, un fort et bouillant garçon qui le retenait de force. « Je n'admets pas de refus quand je demande quelque chose. Ainsi, viens tout de suite jouer avec nous. »« Je t'en prie, » dit le pauvre enfant avec un accent touchant. « Laisse-moi aller !»« Pas du tout, » répliqua l'autre. « Qu'est-ce que tu portes avec tant de soin sur ta poitrine ?»« Une lettre, je suppose. Eh bien, est-ce que cela lui fera beaucoup de mal d'être une demi-heure hors de son nid ? Donne-la-moi et je la mettrai en sûreté pendant que nous allons jouer. » Et il s'efforçait de saisir le dépôt sacré que l'enfant tenait serré sur sa poitrine. « Jamais, jamais !» répondit Tarcissus, levant ses yeux vers le ciel. « Je veux le voir !» répliqua l'autre durement. « Je veux connaître ce secret impénétrable !» Il commença à secouer durement l'enfant. Une foule d'hommes du voisinage sortirent et entourèrent la place en demandant vivement ce qui se passait. Ils virent un enfant qui, les bras croisés, semblait doué d'une force surhumaine et résistait aux efforts d'un jeune garçon, plus grand et plus fort que lui, qui voulait lui faire dire ce qu'il portait. Les coups de poing, les coups de pied, les soufflets, les pierres paraissaient n'avoir aucun effet sur lui. Il supportait tout sans murmurer et sans essayer de riposter, mais il restait inébranlable et ne cédait pas. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela peut être ?» se demandaient les uns aux autres les assistants. Fulvius vint à passer et par malheur se joignit au cercle qui s'était formé autour des combattants. D'un regard, il reconnut Tarcisius, qu'il avait vu à l'ordination de décembre, et lorsque les assistants, frappés de sa mise irréprochable, lui demandèrent ce qui se passait, il répondit en tournant les talons avec dédain « Ce que c'est seulement un âne de chrétien qui porte les mystères. » Cette parole suffit pour exaspérer la foule. Fulvius, dédaignant une proie sans profit, lançait ces mots, sachant bien l'effet qu'ils produiraient. La curiosité des païens était surexcitée, ils voulaient voir ce que les chrétiens appelaient les mystères, et tous les assistants demandèrent à Tarcisius de leur montrer le dépôt qu'il tenait soigneusement caché. « Vous ne l'aurez qu'avec ma vie !» répondit l'héroïque enfant. Un forgeron lui asséna un violent coup de poing sur la tête et le sang jaillit de la blessure. Les coups succédèrent aux coups jusqu'à ce que l'enfant, couvert de contusions et de blessures, exténué, mais tenant toujours ses bras croisés sur sa poitrine, tomba lourdement sur le sol. La foule l'entourait déjà et, saisissant sa tunique, allait la déchirer, s'emparer du dépôt trois fois saint, quand les assistants se sentirent repoussés à droite et à gauche par une force gigantesque. Les uns gagnèrent en chancelant l'extrémité de la place, les autres tournèrent en pivotant à l'endroit où ils étaient et finirent par tomber étourdis sur le sol, tandis que le reste des assistants fut dispersé par un officier d'une taille athlétique qui était l'auteur de cette défaite qui ressemblait à une déroute. Lorsqu'il eut ainsi débarrassé le sol, il se mit à genoux devant l'enfant et, le relevant tout meurtri et presque sans connaissance, avec les précautions et les soins d'une mère, il lui demanda, les larmes aux yeux et en adoucissant sa rude voix, « Souffrez-vous beaucoup, Tarcisius ?»« Ne vous occupez pas de moi, Quadratus, » répondit-il en ouvrant les yeux et en souriant encore. « Mais je porte les divins mystères, prenez-les bien vite !» Alors le soldat souleva l'enfant avec un respect 10 fois plus grand. Il ne portait pas seulement entre ses bras la douce victime qui avait sacrifié si héroïquement sa jeune vie, il ne relevait pas simplement les reliques d'un saint, mais le roi de gloire, le seigneur des martyrs et la divine victime du salut éternel. L'enfant laissait aller avec confiance sa tête meurtrie sur la robuste épaule du guerrier, mais ses mains ne quittaient pas la sainte custode qu'on lui avait confiée. Le soldat ne paraissait pas sentir le double fardeau qu'il portait. Personne ne l'avait encore arrêté lorsqu'une dame, le rencontrant, se mit à le regarder avec étonnement. Elle approcha de lui et contempla celui qu'il portait ainsi, puis s'écria avec terreur « Est-ce bien possible? Est-ce là ce Tarcisius si beau et si charmant que j'ai vu tout à l'heure? Qui donc l'a mis dans cet état ?»« Madame, répliqua Quadratus, ils l'ont assassiné parce qu'il était chrétien. » La noble dame regarda un instant la figure de l'enfant. Il ouvrit les yeux, il la vit, lui rendit son regard avec un sourire et expira. Avec le regard de l'enfant expirant, la lumière de la foi entra dans l'âme de la patricienne. Peu de temps après, elle était chrétienne. Le vénérable Dionysus put à peine retenir les larmes qui obscurcissaient sa vue, lorsqu'il entr'ouvrit les mains de l'enfant et trouva sur sa poitrine le dépôt trois fois saint qu'il lui avait confié et qui restait intact. Celui qui, une heure auparavant, lui avait paru beau comme un ange, dormant le sommeil des martyrs, était devenu un ange de Dieu. Quadratus porta lui-même le corps de l'enfant au cimetière de Calixtus, où il fut enterré en présence des fidèles plus âgés que lui, et cette mort si sainte les remplit d'admiration. Plus tard, le saint pape Damasus composa l'épitaphe de l'enfant martyr. On ne peut la lire sans se convaincre que la foi en la présence réelle du corps de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie était dans ses temps reculés la même qu'aujourd'hui. Saint Tarcisius portait les dons secrets du Christ. La foule profane lui ordonna de les dévoiler. Il aima mieux laisser déchirer ses propres membres que de livrer à ses chiens furieux les membres divins. Carmen 18. Le martyrologue romain mentionne qu'on célébrait sa fête le 15 août dans le cimetière de Calixtus, d'où ses reliques furent transportées à l'église de Saint-Sylvestre in Campo, comme le déclare une ancienne inscription. La nouvelle de cet événement ne parvint aux prisonniers qu'après le festin du soir, et la crainte d'être privés de la nourriture spirituelle dont ils attendaient le secours et la force était la seule alarme qui pouvait altérer, dans une certaine mesure, la sérénité de leurs âmes. En ce moment, Sébastien arriva, et il s'aperçut en entrant qu'on venait d'apporter de mauvaises nouvelles qu'il devina bientôt. Déjà Quadratus lui avait tout appris. Il rassura les confesseurs du Christ, leur dit qu'ils ne seraient pas privés de la céleste nourriture, puis murmura quelques mots à l'oreille du diacre Reparatus, qui sortit immédiatement, le regard brillant d'intelligence. Les gardiens connaissaient Sébastien. Ils le laissaient entrer et sortir librement de la prison. Il prodiguait aux saints confesseurs ses soins infatigables. Mais aujourd'hui, il venait dire son dernier adieu à son plus cher ami Pancratius, qui avait soupiré après cette suprême entrevue. Ils se retirèrent donc à l'écart, et l'adolescent parla ainsi. « Vous souvenez-vous, Sébastien, de cette soirée où, du haut de votre fenêtre, nous entendions rugir les bêtes féroces et où nous regardions les arches nombreuses de l'amphithéâtre qui paraissaient ouvertes comme pour laisser passer le triomphe des chrétiens ?»« Oui, mon cher enfant, je me rappelle parfaitement cette soirée et il me semble que votre cœur devinait à l'avance les scènes qui vous attendent demain. » »« Oui, en vérité. » J'éprouvais une certitude intérieure que je serais un des premiers destinés à assouvir la rage furieuse de ces représentants de la cruauté humaine. Mais à présent que le jour est venu, je peux à peine me croire digne d'un tel honneur. Qu'ai-je donc fait, Sébastien, non pour mériter, mais pour être l'objet d'une grâce si grande ? Vous le savez, Pancratius, ce n'est ni celui qui veut, ni celui qui court, mais c'est Dieu qui a la miséricorde et qui fait l'élection. Dites-moi plutôt quelles sont vos pensées sur les glorieuses destinées qui vous attendent demain. À vrai dire, elles me paraissent si magnifiques, si au-dessus de ce que ma raison peut concevoir, que je les regarde plutôt comme une vision que comme une réalité. Ne vous semble-t-il pas aussi incroyable à vous, qui me voyez cette nuit dans une prison froide, obscure, affreuse, de penser qu'avant le coucher de notre soleil, j'entendrai le son de la lyre des anges, je me joindrai à la longue procession des saints, vêtue d'une robe blanche, je respirerai le parfum de l'encens au ciel et je me désaltérerai pleinement à la source de la vie? Ne vous semble-t-il pas que nous lisons ou que nous entendons parler d'une autre personne? Et puis-je oser penser que, dans quelques heures, c'est le sort réel qui m'attend? Ne sentez-vous rien de plus, Pancratius ? Oh oui, bien plus encore, et je ne pourrais le dire sans présomption. Pensez que moi, un enfant à peine sorti de l'école, qui n'ai rien fait encore pour le Christ, je puis dire, demain à 7 heures, je le verrai face à face, je l'adorerai, je recevrai de lui une palme et une couronne, et plus encore, un affectueux baiser. C'est là une espérance si belle que je tressaille en trouvant que le temps tarde à s'écouler. Et cependant, Sébastien, continua l'enfant avec ferveur en saisissant entre ses mains les mains de son ami, c'est bien vrai.
C'est la vérité même, Pancratius.
Oui, la vérité, Sébastien. Fermer ses yeux à la vue de figures humaines et ouvrir ses regards devant la face de Dieu. Les fermer devant les 10 000 figures de l'amphithéâtre que la haine, le mépris, la fureur rendent grimaçantes et les rouvrir à l'instant qui suivra sur ce soleil des intelligences dont la splendeur nous éblouirait et nous consumerait si ces rayons nous entourant, nous embrassant et nous souhaitant la bienvenue ne nous attiraient pas au même moment dans la fournaise de l'amour de Dieu et ne nous plongeaient pas dans cet océan d'amour et de miséricorde où les bienheureux ne peuvent craindre ni péril ni destruction. Sans doute, Sébastien, il est bien présomptueux à moi de dire que demain... Cependant, écoutez, le veilleur du Capitole annonce minuit. C'est aujourd'hui, aujourd'hui, que je jouirai de ces biens infinis. Heureux Pancratius, s'écria le soldat, vous jouissez par avance de ces biens dont quelques heures seulement vous séparent. « Et vous savez, cher Sébastien,
continua l'adolescent sans paraître remarquer l'interruption. Combien j'admire la bonté et la miséricorde de Dieu qui daigne m'accorder une telle mort. Que la mort à mon âge doit être accueillie avec bonheur quand elle nous délivre de tout ce que la terre a de hideux et dérobe à notre vue les bêtes monstrueuses et les hommes pécheurs également affreux, en préservant nos oreilles de leurs rugissements infernaux. Qu'il serait plus pénible de quitter la vie sous le dernier et tendre regard d'une mère telle que la mienne, et de fermer son oreille en entendant sa voix douce, plaintive et résignée. Il est vrai que je la verrai et que je l'entendrai pour la dernière fois, comme nous l'avons arrangé, demain avant la lutte. Mais je sais qu'elle ne fera pas faiblir mon courage. » Une larme s'échappa des yeux de l'enfant à la pensée de sa mère, mais il l'essuya bien vite et reprit gaiement. « Mais Sébastien, vous avez une double promesse à remplir envers moi. Il faut que vous me révéliez les secrets que vous me cachiez. C'est votre dernière occasion, ainsi dites-moi tout. » « Vous rappelez-vous bien sur quoi roulaient ces secrets ?»« Très bien, car ils m'ont assez intrigué. D'abord, la nuit de la réunion chez vous, vous m'avez dit qu'il était un motif assez puissant pour contenir votre généreux désir de mourir pour le Christ, et ensuite, vous avez refusé de me donner vos raisons pour m'envoyer si vite en compagnie. Ce fut un nouveau secret à ajouter à l'autre. Pourquoi, je ne puis le comprendre. » Il n'en formait qu'un. J'avais promis de veiller à votre vrai bonheur, Pancratius. Je remplissais par là un devoir d'amitié et de charité. Je voyais votre désir du martyr. Je connaissais la nature ardente de votre jeune cœur. Je craignais de vous voir entraîné à commettre une action téméraire qui aurait pu ternir la pureté de vos aspirations aussi légèrement que le souffle ternit l'acier bien trempé et flétrir en passant une seule feuille de votre palme. C'est pour cela que je me déterminais à modérer mes propres empressements jusqu'à ce que je vous vis hors de danger. Avais-je raison ? Oh, c'était trop bon à vous, cher Sébastien, c'était un noble sacrifice. Mais quel rapport y a-t-il avec mon voyage ? Si je ne vous avais pas envoyé en compagnie, on vous aurait arrêté pour avoir déchiré l'édit ou pour la leçon que vous aviez donnée au juge dans son prétoire même. Vous auriez été certainement condamné et vous auriez souffert pour le Christ, mais votre sentence eût attribué la condamnation à une cause différente, à une offense civile, à un acte de rébellion contre les empereurs. En outre, mon cher enfant, vous auriez été seul dans votre triomphe, les païens eux-mêmes vous eussent regardé comme un hardi et courageux adolescent, vous auriez pu être troublé même dans votre lutte par un léger nuage de vanité, et en tout cas l'ignominie qui est le mérite distinctif et la gloire principale de mourir comme un simple chrétien, vous eût été épargné. « C'est bien vrai, Sébastien, » dit Pancratius en rougissant. « Mais quand je vous vis, continua le soldat, arrêté dans l'accomplissement d'un acte de généreuse charité envers les confesseurs du Christ, lorsque je vous contemplais, traîné au milieu des rues de Rome, enchaîné comme un forçat, frappé et hué comme les autres fidèles, lorsque j'entendis prononcer la sentence qui vous condamnait avec vos compagnons, simplement parce que vous êtes chrétien, je sentis que ma mission était terminée et je n'aurais pas levé le doigt pour vous sauver. » Votre affection pour moi a été comme l'amour de Dieu, sage, généreuse, oublieuse de vous-même, dit Pancratius en pleurant et en se laissant aller sur l'épaule de l'officier. Promettez-moi encore une chose, vous resterez aujourd'hui non loin de moi pour remettre à ma mère mon dernier legs. Quand même votre demande me devrait coûter la vie, je l'exécuterai. Nous ne serons pas longtemps séparés, Pancratius. Le diacre annonça que tout était prêt pour offrir le saint sacrifice dans la prison. Les deux jeunes gens se retournèrent et Pancratius regarda étonné. Le saint prêtre Lucianus était couché sur le plancher, ses membres étendus péniblement dans la catasta où les entraves l'empêchaient de se lever. Le diacre Reparatus avait disposé sur sa poitrine les trois linges blancs exigés pour l'autel et sur ses linges il déposa le pain sans levain et le calice où l'eau et le vin avaient été versés. Le diacre soutenait le calice. On souleva la tête du vieillard pendant qu'il lisait les prières accoutumées et accomplissait les cérémonies prescrites pour l'oblation et la consécration. Puis chacun des assistants s'approcha pieusement et, avec des larmes de reconnaissance et d'amour dans les yeux, reçut sa part du festin, c'est-à-dire la nourriture mystique tout entière. Exemple merveilleux et touchant du pouvoir de l'Église qui sait se plier à toutes les circonstances. Ses lois sont immuables, mais son amour ingénieux sait trouver des moyens pour conserver l'essence de la loi en faisant fléchir la forme, et l'exception de la règle semble une application plus sublime de la règle elle-même. Il y avait là un ministre de Dieu, un dispensateur de ses mystères, qui, plus que les autres, possédait le privilège d'être à la fois comme celui qu'il représentait, et le prêtre et l'autel. L'Église ordonnait que le saint sacrifice ne fût accompli que sur les reliques des martyrs, et là était un martyr qui jouissait de la prérogative singulière d'offrir le saint sacrifice sur son propre corps. Il vivait encore, mais il reposait sous les pieds de Dieu. Il est vrai que la poitrine battait encore et que le cœur palpitait sous les divers mystères, mais c'était là seulement une partie de l'action du ministre. Lui-même était déjà mort par le sacrifice de sa vie et que sa volonté avait fait et qu'il ne restait plus qu'à accomplir. La vie du Christ régnait seule à l'intérieur comme à l'extérieur de cette poitrine. Le viatique destiné aux martyrs ne fut-il jamais plus dignement préparé ?